Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Je suis Élise Giraudeau et mon premier roman, La vie en turquoise, qui est un roman contemporain engagé, va être publié en avril 2024 aux éditions Les Arts des Mots. Dans ce podcast, vous retrouverez tout mon parcours avec l'écriture, des conseils d'écriture et aussi le journal de bord de mes publications. Mais nous allons aussi parler de santé mentale, de résilience, d'écriture thérapie, de motivation et de bien-être en général. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode sur la suite pour moi, enfin en tout cas sur quoi je bosse en ce moment, parce que je me suis rendu compte en allant en dédicace qu'il y avait des personnes qui ne me suivaient que sur mon podcast et je trouve ça incroyable et qui étaient venues me voir et tout à mes dédicaces, savoir par exemple le vrai nom de JUF, mon nouveau roman que je suis en train d'écrire en ce moment et dont je vais vous parler. Parce que j'en avais pas parlé sur mon podcast et là en fait j'ai regardé mes épisodes et je me suis dit oh mon dieu mais en fait je fais tellement pas assez de podcasts. Donc normalement je vais m'associer avec ma copine Manon qui va lancer ses services de podcast manager. Je vais peut-être pouvoir avoir un peu plus de temps et juste à enregistrer mon podcast et après c'est elle qui s'occupera de tout. Bref, là, il fallait vraiment que je fasse un update parce que je me suis dit que j'avais pas du tout assez communiqué sur mon actualité. Du coup, qu'on reprenne, je vais vous parler d'abord, vous faire un petit point dédicace parce que y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne suivent pas forcément mes dates de dédicace. Donc, en fait, j'ai déjà fait la dédicace à Bordeaux, donc je vous avais fait un épisode. La semaine dernière, j'ai fait une dédicace à Lyon. Pour vous faire un petit peu la suite, si vous jamais vous avez envie de venir me voir, je serai à Bordeaux le dimanche 12 mai à Suzy Café de 15h à 17h30. Ensuite, je serai à Paris chez Fafa Bouquinerie dans le 18e arrondissement le samedi 18 mai de 14h à 17h30. Je serai ensuite à Épinal au festival Les Imaginales où là je dédicacerai principalement mon recueil. Ma nouvelle dans le recueil et les leçons de l'hiver, parce que je ne suis pas toute seule dans ce recueil, donc ce n'est pas mon recueil, c'est notre recueil, qui est donc une nouvelle de science-fiction, et où je pourrais aussi dédicacer mon roman La vie en turquoise. Je serai aussi à Rennes, enfin pas à Rennes même, mais à Mélès, à la librairie L'Alphabule le samedi 1er juin de 10h à 12h30. C'est pas très loin Mélès de Rennes, il y a un bus qui amène directement en genre 20 minutes je crois. Du coup n'hésitez pas à regarder si vous voulez venir me voir. Je serai ensuite à Tours au Cultura le samedi 8 juin de 10h à 18h. Ensuite, parce que oui, je fais vraiment un tour de France, je serai au Cultura de la Défense, donc à Paris encore fin juin, le 29 juin de 14h à 17h. Je serai ensuite le 9 juillet à Marseille, à la librairie Les Voix des Chapitres, qui sont mais vraiment adorables. Donc là, normalement, il y aura une rencontre de 15h à 16h et ensuite une dédicace de 16h à 19h, donc ça va être trop chouette. Ensuite, je serai à la FNAC. vraiment, je m'en remets pas. Parce que c'est la FNAC qui est venue me démarcher. Donc, j'étais vraiment trop contente. À la FNAC Croix-Blanche, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Ile-de-France, dans le 91. Donc là, on est en septembre, de 14h à 18h. Et ensuite, je serai au Cultura de Aubagne, le samedi 21 septembre, de 10h à 18h. Et je serai aussi à Arcachon, donc là où se passe... Principalement mon roman La vie en turquoise, la semaine du 15 juillet à la librairie générale en plein centre d'Arcachon, mais j'ai pas encore la date exacte, j'ai pas encore les horaires exacts, donc j'en saurai plus en juin. Voilà. Donc ça c'était le petit point dédicace. Je pense en fait il faut que je communique déjà beaucoup je trouve sur mes dédicaces, mais vous savez pas le nombre de personnes qui m'a dit ah mais t'étais à Lyon, j'aurais trop pu venir te voir. J'étais là mais fallait venir. Donc bref, voilà, j'espère que là, en tout cas, pour les dédicaces, c'est OK. Je vais vous parler un peu en exclusivité de ce que j'écris, sachant que j'en suis à 25 000 mots sur mon manuscrit. Donc je pense que je commencerai la communication sur ce roman quand je serai sûre qu'il sera signé avec ma maison d'édition. On avait parlé potentiellement, si jamais, bah, évidemment, le manuscrit leur plaît, de le sortir en mars, parce que c'est un roman qui se veut quand même très féministe. Et bah, le 8 mars, voilà, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et ça pouvait être assez sympa de le sortir symboliquement à cette date. Mais je le répète encore une fois, le roman n'est pas signé, je n'ai pas signé de contrat. Ma maison d'édition est juste intéressée par le pitch. Mais il faut que bah, les éditrices le lisent et qu'elles me confirment que oui, bah, on va travailler dessus et bah, on va le signer et tout ça. Donc tant que c'est pas signé, je fais pas de la vraie com, parce que bah, je suis pas encore sûre qu'ils sortent en 2025, mais j'aimerais genre juste oublier un peu bah, ces histoires de publication et tout, enfin juste moi, genre j'ai envie de vous parler de mon manuscrit sur lequel je suis en train de travailler, donc on va oublier que je suis enfin qu'il peut potentiellement être publié dans ma maison d'édition et tout, et qu'on peut aussi potentiellement me dire ah non, c'est juste moi là avec mon micro qui vais vous parler de mon manuscrit en cours. Donc comment il s'appelle? Il s'appelle JUF, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, et en fait JUF pour juste une fille, et j'aime trop le titre, voilà, sachez-le, franchement j'espère qu'un jour vous le lirez et vous comprendrez vraiment pourquoi ce titre, juste une fille, franchement il y a des, vous allez voir ça a été un peu laborieux ce manuscrit, mais franchement, des trucs sur lesquels je suis vraiment très fière et très contente, et notamment le titre, voilà, le titre juste une fille, je l'aime trop. Et du coup, en fait, c'est un roman, donc pour la forme, c'est un à double point de vue. Je crois que j'aime bien faire ça, en fait. C'est un roman à deux points de vue. Donc là, il y a un point de vue masculin et un point de vue féminin. Donc c'est un frère et une sœur. Donc il y a Vanille, donc c'est la personnage féminine, et Kale, le personnage masculin. En fait, les points de vue s'alternent. Il y a Kale, Vanille, Kale, Vanille, Kale, Vanille. Et il est découpé en trois parties, le roman, dont j'ai fait une mini-réunion hier avec mes éditrices parce que j'arrivais du mal à trouver le nom de mes parties, même si j'avais une super base. Et du coup, en fait, il y a tellement de symbolique dans ce roman, mais là, du coup, je vous les expliquerai plus tard, genre s'il est signé et quand il va sortir, etc. Ou, ouais, je pense que je l'expliquerai sur mon podcast et si jamais on me pose la question en interview. Et du coup, ben voilà, c'est bien confirmé, il est bien divisé en trois parties. Et il y a un prologue et un épilogue. Et du coup, pour le fond, ça va être encore un roman contemporain engagé qui va frapper fort sur pas mal de trucs. Et du coup, ben là, ça va aborder les sujets que je vais lister. Donc, ça peut être des trigger warnings pour certaines personnes. Ça peut plutôt trigger certaines personnes. Donc, ça peut être des trigger warnings. C'était français ce que j'avais dit. Donc, du coup, il y a solitude, agression sexuelle, violence sexuelle. Et violence sexiste aussi, alcoolisme chez les jeunes, les troubles du comportement alimentaire, et le fait de... Enfin, ça rejoint la solitude, mais vraiment le fait de ne pas se sentir à sa place. Et ça va aussi parler d'amitié, de sororité, de féminisme, comme j'avais dit, de relations fraternelles et de prise de conscience. Et surtout, vraiment, d'arrêter de remettre en doute la parole des femmes. Voilà, c'est surtout ça le but du projet. Et du coup, si je devais faire un petit résumé, genre vraiment là, inventé de toutes pièces, parce que j'ai même pas réfléchi avant de le faire, mais du coup, c'est Vanille et Kale, donc un frère et une sœur qui rentrent tous les deux en même temps dans une école d'ingénieurs. Donc en fait, il faut que je précise que ce roman, il est encore une fois inspiré de... Donc beaucoup moins que La Vie en Turquoise, qui est littéralement... Enfin, pas littéralement ma vie, parce que comme j'ai dit, il y a de la fiction aussi, mais c'est quand même beaucoup moins proche de moi. Mais ça reste quand même inspiré de choses que j'ai vécues et que j'ai vues en école d'ingé et qui me paraissaient ok sur le moment, alors qu'en fait, avec des années d'expérience dans la vie et de recul, bah, je me rends compte que c'était pas du tout OK. Et en fait, cette idée elle, de l'écrire, elle m'est venue après avoir lu le roman Nos plus belles années de Clara Ayrault, que je ne peux que vous recommander. Parce qu'en fait, ça m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses par rapport aux écoles d'ingé, et où je me suis dit, mais oui, en fait, il faut que j'en parle. Et du coup, j'avais écrit à Clara d'ailleurs pour lui dire que vraiment merci et que ça m'avait donné envie de moi raconter ma vision des choses. Donc, elle, c'est, ça se passe dans les études à Sciences Po. Moi, c'est voilà, inspiré de mon vécu en école d'ingénieur. Et je pense que, comme elle m'avait dit qu'il n'y avait pas qu'un seul roman. Pour parler de ça, et du coup je me suis dit mais oui en fait il faut que je l'écrive, donc du coup bah, je l'avais mis de côté dans ma tête, et voilà bah, ça y est c'est le moment de l'écrire. Du coup donc je reprends, c'est Vanny et Kel qui rentrent tous les deux dans des écoles d'ingénieurs, pas dans la même filière, et ils vont en fait chacun vivre les choses différemment. Donc Vanny elle est hyper solitaire et... Et en fait, elle aime. Enfin, c'est pas qu'elle est hyper solitaire, c'est qu'elle est seule par la force des choses. Parce qu'en fait, elle a des troubles du comportement alimentaire et elle se déteste vraiment. Elle s'aime pas du tout. Donc, ils ont tous les deux la vingtaine. Donc, elle s'aime pas du tout. Donc, elle a ses TCA. Elle va à la salle tout le temps pour essayer de maigrir parce qu'elle se trouve vraiment trop grosse. Elle est très studieuse. Et en fait, elle boit pas d'alcool. Et à cause de ça, en fait, elle trouve pas sa place du tout depuis en fait le lycée, parce que bah, forcément, quand on boit pas d'alcool, on n'est pas drôle, hein, bien sûr, évidemment. Donc, elle est rejetée vraiment de toutes parts par rapport à ça. Et elle aime pas forcément aller en soirée. Elle a un cadre de vie très carré de par le fait qu'elle fait beaucoup de sport. Et du coup, elle essaie de jongler entre aussi ce côté très studieux. En fait, elle essaie quand même de s'ouvrir aux autres et de faire un peu des efforts pour s'intégrer, mais elle est maladroite, elle n'y arrive pas. C'est, voilà, très compliqué. Et il y a Kale, du coup, qui est son frère, qui lui est pas du tout studieux. Il a des grosses facilités, du coup, il est arrivé à l'école d'ingé comme ça. Et lui, son but, c'est vraiment aussi de se faire accepter, finalement. C'est un peu symphonique, en fait, ces deux points de vue. Et pour ça, en fait, il a vraiment envie de participer aux campagnes bureau des élèves dans son école d'ingénieur. Donc, c'est quoi, du coup, les campagnes bureau des élèves? C'est, en fait, quand on arrive en école d'ingé, on essaie de se regrouper à 20-25 et de former une liste de noms d'élèves, de déposer la liste à la préfecture dans les premiers, et après, en fait, pendant 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus exactement, 2 semaines, je crois que c'est, en fait, il y a des... ouais, c'est 2 semaines, j'en suis sûre. Il y a en fait des activités proposées par chacune des listes qui s'affrontent, donc ça dépend des écoles d'ingé. Dans la mienne, c'était 2, il y en a d'autres, c'est 3. Et en fait, après, tous les élèves de l'école votent pour la liste qu'ils ont préférée, donc ceux qui ont proposer les meilleures activités, etc. Et du coup, l'année d'après, quand les élèves sont en deuxième année, bah, du coup, c'est eux qui organisent tous les trucs dans l'école, tous les événements qui se passent, que ça va du week-end d'intégration aux soirées, aux trucs aussi, les trucs qui se passent pour les cours et tout. Enfin, c'est le bureau des élèves qui gère tout ça. Et du coup, bah, Kale, il va lister, en fait. Et ce qui va rejoindre Vanny et Kale, du coup, dans cette première année d'école d'ingénieur, c'est qu'ils vont tous les deux rencontrer le même garçon qui s'appelle Raphaël. Et en fait, Raphaël, bah, on va se rendre compte qu'il a l'air super sympa. Ça a l'air vraiment d'être un bon gars. Mais en fait, pas du tout, voilà. Donc, je sais pas trop comment on va le résumer, ça, derrière... avec mes éditrices, enfin la quatrième de couverture. Donc là, c'est vraiment juste un petit avant-goût comme ça. mais je ne sais pas comment la quatrième de couverture sera. Mais en gros, bah, ça va être rythmé la majorité du temps. Enfin, il y a d'autres personnages, hein, mais c'est surtout en fait centré sur les interactions entre Kale et Raphaël et les interactions entre Vanny et Raphaël. Et en fait, on va les suivre de la rentrée, donc de septembre, jusqu'à la fin, ouais, je dirais la fin de la première année. En fait, on va les suivre pendant toute la première année d'école d'ingé. Et en fait, ce qui va se passer entre Kyle et Raphaël et entre Vanny et Raphaël. Voilà. Et aussi entre Vanny et Kyle, du coup, parce que ça va créer plusieurs émotions entre le frère et la sœur, tous ces événements qui vont se produire à cause d'une seule et unique personne, mais qui finalement, en fait, il suffit d'une personne qui décide de prendre le pouvoir, une seule brebis galeuse dans le... ou un seul loup, en fait, dans un troupeau, et pour que les choses partent en jus de boudin. Voilà, genre vraiment, cette expression n'a pas été utilisée depuis les années 1800. Ma sœur, je pense, va me faire tomber un truc sur la tête parce que elle détestait quand j'utilise des expressions de vieux. Mais bon, bref, les choses vont partir en cacahuète, quoi. Voilà, en gros. Voili, voilou. Donc, écoutez, j'espère que cette petite mise en bouche aura pu vous donner envie de potentiellement lire ce bouquin. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi, le début du livre, à écrire, en fait, je parle. Déjà parce que, en fait, je ne compare tout à La Vie en Turquoise et c'est très compliqué. Enfin, tout, pas tout, parce que par exemple, Daikiri à moitié dans ton lit, que j'ai coécrit avec Manon Lécuyer et qui sort en novembre aux éditions Les Arts des Mots. Ou bien ma romance à New York, Pas de cliché à New York City, qui, j'espère, va sortir l'année prochaine, toujours aux éditions Les Arts des Mots. En fait, comme je les classe dans la catégorie romance, j'ai moins tendance à comparer à La Vie en Turquoise, alors que là, Juste une fille, vraiment, c'était un truc... vraiment, j'ai passé mon temps et le début du roman à comparer à La Vie en Turquoise. Pourquoi ? Parce que c'est un roman contemporain engagé et c'est aussi inspiré de choses que j'ai déjà vécues, contrairement aux autres romans qui sont complètement décorrélés et où j'invente tout de A à Z. Là, il y a pas mal de choses qui sont vraies, entre guillemets. Et comme c'est plus éloigné de moi, en termes de ressenti, puisque c'est pas 100% ma vie, que c'est éloigné de moi en termes de temps, parce que La Vie en Turquoise, l'avantage, entre gros guillemets, que j'avais, c'était que je venais de vivre les émotions, donc c'était hyper simple de les retranscrire. Et... je me faisais que me dire en fait que ce roman était nul à chier parce que j'arrivais pas à retranscrire les émotions et je pense que c'est une des forces dans La Vie en Turquoise et c'était aussi une des forces de ma plume parce que j'adorais jouer avec les métaphores et les mots tout simplement pour retranscrire les émotions et les mots MAX. Là c'était beaucoup plus difficile et en plus c'était, je trouvais ça hyper difficile d'écrire en point de vue masculin. Sachant que je ne suis pas de ce genre. J'avais la sensation que j'arrivais pas du tout à penser comme un garçon, ce qui est totalement vrai en fait finalement, puisque je milite quasiment tout le temps pour dire que les garçons ne peuvent pas penser comme les filles, et que les personnes non-binaires ne peuvent pas penser comme les garçons ou comme les filles, ou que peu importe votre genre, vous pensez comme votre genre, forcément. Et du coup, j'avais trop du mal, en fait, à me dire, j'arrive pas à retranscrire vraiment les émotions et la manière de penser d'un garçon et tout ça, parce que moi, dans ma tête, les garçons égalent le mal. Du coup, j'étais en mode, quand même, j'aimerais bien montrer un garçon sain et tout, donc comment est-ce que je pourrais faire et tout. Enfin, bref, je pense que ça y est, là, j'ai trouvé. Je suis au chapitre 9 je pense que ça y est, ça roule. Enfin, il faudra que je reprenne vraiment les premiers chapitres, c'est une catastrophe. Mais là, ça commence à ressembler à quelque chose, je trouve. Je deviens fière de ce que j'écris. Donc, c'est cool. Et aussi, ce qui m'avait beaucoup posé problème, c'est le nombre de chapitres, parce que je m'étais dit, allez Élise, tu pars pas en mode jardinière, parce qu'en fait je pense que ça me correspond pas finalement de partir en mode jardinière, parce que j'adore faire du foreshadowing, etc. Et du coup j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après pour pouvoir intégrer des trucs. Et j'avais planifié un certain nombre de chapitres, je crois que j'en avais planifié 43 en comptant le prologue et l'épilogue. Et j'ai repris tout mon chapitrage parce que je me dis, mais attends, mais Élise, c'est pas possible que t'aies autant de mots à écrire. Parce que, en fait, dites-vous que j'avais compté 45 chapitres. Et en fait, mes chapitres faisaient une moyenne de 3000 mots. Donc si je fais 45 fois 3000, je sais plus combien ça fait, mais ça fait plus de 120 000 mots. Et je me disais, mais c'est pas possible que ce roman soit si long, genre. Vraiment, c'est... Non. Et comme je veux le terminer avant le 1er juillet, pour pouvoir le réécrire au mois de juillet, pouvoir l'envoyer en bêta lecture en août, pouvoir le réécrire en septembre et l'envoyer à mes éditrices le 1er octobre. Parce que bah, pour ceux qui sortent en mars, il faut au moins 5 ou 6 mois de taf dessus. Du coup, j'étais là, mais je vais jamais y arriver. Parce que j'écrivais genre 500, 600 mots par jour. J'essaie vraiment d'écrire tous les jours et de m'y tenir. Mais en fait, il y a des jours où je suis juste trop claquée. Et il y a des jours où je suis en dédicace, du coup, puisque comme je vous ai dit au début, je fais littéralement quasiment un tour de France. J'exagère vraiment, il y aimerait tellement d'autres villes où j'aimerais aller, mais bon, bref. J'étais là, mais c'est pas possible, en fait. Voilà, donc j'ai repris mon chapitrage, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé des chapitres qui servaient à rien. Et je pense même que je vais peut-être en enlever d'autres, parce qu'il y a une partie, justement pendant les campagnes BDE, les campagnes du bureau des élèves dont j'ai parlé dans le résumé, qui je pense en fait sont encore un peu trop détaillés, genre j'ai pas besoin de faire autant de chapitres sur les campagnes BDE. Du coup je vais peut-être en enlever un ou deux, mais bref, genre je pense que je serai entre 30 et 35 chapitres en comptant le prologue et l'épilogue. Et du coup je pense que là du coup comme je suis à 25 000 mots, je suis à peu près au quart, au cinquième ou au quart du roman. Et du coup, ça me paraît beaucoup plus plausible de terminer le 1er juillet. Du coup, voilà. ça m'a donné pas mal de fil à retordre. Et en vrai, c'est bien parce que ça me sort de ma zone de confort. Et c'est normal aussi parce que, c'est parce que j'ai un roman publié que, ça y est, je suis devenue Virginie Grimaldi ou Stephen King. Enfin, je veux dire, MDR, genre, j'ai écrit 3 romans, dont un que j'ai coécrit avec Manon, donc je ne l'ai pas écrit en entier toute seule. Donc vraiment, je veux dire, il faut redescendre, quoi. Enfin, non pas que je me sois pris pour quelqu'un, mais genre vraiment, je suis là en mode, ben non, mais en fait, t'es un bébé, Elise, genre t'as encore plein de trucs à apprendre. Et c'est pas parce que y a des personnes qui ont écrit genre 20 romans et qui sont pas publiés. Je pense que ces personnes ont peut-être plus de choses à m'apprendre que moi à leur apprendre par rapport... à l'écriture d'un bouquin, quoi. Vraiment, il faut apprendre, Elise. Donc voilà, bref. Du coup, voilà. C'était les petites exclus sur Juste une fille. J'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur Insta ou par mail, ou je sais pas, un moyen de me contacter que vous utilisez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.giraudot.contact@gmail.com. À bientôt!